Vous écoutez Radio Neke Luke. Nous vous invitons à suivre la grande édition de la mi-journée avec Karine Estelle Gbegbe. Karine, bonjour.
Bonjour Ghislaine Dina Kongwita, bonjour à tous. À la une, tuerie de masse à Alindao dans la Basse-Côte. Le chef du gouvernement condamne l'inaction de la MINUSCA qui n'a pas pu empêcher le drame, combien même alerté. À suivre Simplice Mathieu Sarandi au début de ce journal. Cette situation d'insécurité à Lindao fait réagir la coordination des victimes et déplacés de la région. Elle invite les autorités à une action d'urgence pour garantir la sécurité de la population. Calvaire des éleveurs peuls à l'ouest de la République centrafricaine. Les groupes armés leur exigent de fortes rançons par troupeau avant toute installation dans la localité. Du football, le dernier match amical des clubs SCAF et Ange de Fatima cet après-midi au stade Barthélémy Boganda. Le Premier ministre Simplice Mathieu Sarandi s'insurge contre ce qu'il qualifie d'inaction de la MINUSCA dans le drame d'Alindao. Selon lui, les casques bleus de la MINUSCA n'ont pas pris des dispositions nécessaires afin d'éviter l'attaque du site déplacé d'Alindao dans la Basse-Côte. Simplice Mathieu Sarandi réagissait ainsi hier devant les élus de la nation à l'Assemblée nationale. Au micro de Igor Dieskin-Sinapa, il précise qu'il avait alerté les responsables de la MINUSCA depuis jeudi dernier sur la menace de cette attaque du site par l'UPC.
Anne-Marie Goumba était là. On devait installer des décorations aux vaillants policiers rwandais qui travaillent dans le cadre des Nations Unies. On était là. J'avais posé la question au représentant spécial adjoint des Nations Unies, M. Kennebrook. Je le dis, M. Kennebrook. Voilà ce que j'ai reçu comme information. Je charge à vous de prendre vos responsabilités. Le ciel est déplacé, lui allez dans ce attaqué dans les heures qui suivent. Il va me rassurer que nous sommes informés de cela. Et nous avons pris toutes les dispositions pour parer à cela. Je l'ai dit, je vais rendre compte au chef de l'État, je veux des réponses claires. Il m'a dit oui. Vous pouvez dire au chef de l'État de rassurer que la MINUSCA a pris des dispositions pour contenir ce assaut. Malheureusement. Après cette cérémonie, j'avais pris part aux côtés du chef de l'État, au Conseil des ministres. Au sortir de ce Conseil des ministres, là, qu'est-ce que je vais apprendre? Carnage à Alina.
Simplice Mathieu Sarandi, chef du gouvernement sur Radio Ndekelika.
À propos de ce drame sécuritaire à Alindao, la coordination des victimes et déplacés de la région hausse le ton.
Dans un communiqué en date du 20 novembre, elle demande au gouvernement, à la MINUSCA et aux députés de la localité de la préfecture de prendre leurs responsabilités. Ceci pour garantir la sécurité de la population. Fait le point avec Fanny Christelle Balikoussi.
Dans ce document de 3 pages, la coordination des victimes et déplacés de la Basse-Côte déplore entre autres la non-assistance des victimes par les membres du gouvernement et la sécurisation de la ville. Elle envisage d'organiser une marche avec l'appui des ressortissants de la Basse-Côte. Enoch Fortuné Binginde, coordonnateur.
La coordination des victimes et déplacés ici à Bangui demande à tous les ressortissants et les victimes déplacées de la Basse-Côte à Bangui de s'unir pour une grande marche afin de demander à la MINUSCA d'abord le retrait immédiat des Mauritaniens basés à Alindao et les Pakistanais basés à Mobaï. Nous demandons au gouvernement d'envoyer très rapidement les forces de l'armée centrafricaine dans toute la Basse-Côte et surtout aussi la prise en charge des victimes déplacées.
Il est toujours difficile d'avoir des informations concernant la ville d'Alindao. Aucun réseau téléphonique n'est fonctionnel dans la ville. Plus d'une trentaine de personnes fuyant ce drame est arrivé hier à Bombari, selon Enoch Fortuné Binginde.
Nous avons les nouvelles d'Alindao à travers les gens qui viennent d'arriver à Bombari. Ce matin, on nous parlait de 37 personnes qui sont arrivées et hébergées du côté de la sous-préfecture de Bombari, dans des conditions difficiles. La situation reste catastrophique. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de vie à Alindao. Et quitter Bombari pour aller à Alindao, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de barrières que les mercenaires de l'UPC ont érigées. Donc, ce n'est pas facile actuellement d'atteindre Alindao ni par communication et ni par transport routier.
Un deuil de 3 jours est observé depuis hier par la population centrafricaine en mémoire des personnes tuées à Alindao.
Fanny Christelle Balikoussi.
Cependant, la MINUSCA déclare que les villes de Alindao et Batangafo sont en ce moment sous contrôle.
Quels sont les propos tenus hier à Bangui lors de sa conférence de presse hebdomadaire? Armando Yanguindi.
La mission onusienne dit maîtriser la situation qui prévaut à Alindao et Batangafo. Seulement aucun bilan des dégâts causés n'est communiqué. Vladimir Montero, son porte-parole.
Nous ne communiquons pas. Habituellement, la MINUSCA ne communique pas sur les bilans. D'habitude, ce sont les humanitaires. Tout ce que je peux dire, c'est que la MINUSCA a sécurisé une ONG nationale qui était chargée de voir un peu sur le terrain le nombre de victimes.
Une réponse qui ne convainc pas du tout les journalistes. Une d'entre eux reformule sa question.
On est assez surpris de voir que 50 casques bleus ne sont pas capables d'arrêter quelques éléments d'un groupe armé. Et d'autre part, l'UPC nie l'attaque. Ils disent qu'ils sont venus après des groupes d'autodéfense qui auraient mené cette attaque. Quelle est votre position par rapport à ça? Et d'ailleurs, l'UPC disait récemment encore être toujours dans l'évêché. Est-ce que la MINUSCA est de retour dans l'évêché? Où est-ce qu'on en est?
Vladimir Montero répond à ces termes.
Madame, il ne s'agit pas de 50 casques bleus qui sont incapables d'arrêter quelques hommes armés. Ce sont des questions d'ordre militaire, mais il ne s'agissait pas que de quelques éléments armés, auquel cas les casques bleus auraient empêché ce carnage.
Bien que la MINUSCA dise contrôler la situation, les responsables de l'institution se réservent de communiquer sur le bilan matériel et humain de ces violences ayant fait l'objet d'interpellations du gouvernement hier devant la représentation nationale.
Merci Armando.
Karine, sachez qu'à l'ouest de la République centrafricaine, les éleveurs peuls sont pris en étau par les groupes armés.
Oui, Ghislain, ces derniers temps, ils collectent et exigent à ces éleveurs des fortes rançons par troupeau avant que ces derniers puissent s'installer. Une situation décriée par ses éleveurs. Des détails avec Daniel Mbelimbari.
Ces derniers mois, les éleveurs peuls retournés subissent des exactions à la frontière ouest de la RCA. Selon des sources locales, ces bandes armées leur exigent un bœuf et 100 000 francs par troupeau avant qu'ils s'installent dans les zones occupées. Ce phénomène, dénommé Djaka, est pour ces éléments la récompense en contrepartie de leur sécurité face à toute agression. D'après certains témoignages, les Humbres, une race des éleveurs peuls dénommés Alagama, sont les plus ciblés par ces raquettes. Selon ces mêmes sources, les nombreux éléments de 3R qui ont effectué le déplacement à Diaboire et à Madagaza seraient à leur poursuite. Beaucoup d'entre eux descendent vers le sud-ouest, d'autres rebroussent chemin vers le Cameroun. À titre d'illustration de ces raquettes, plusieurs troupeaux bovins sont conduits chaque semaine de Godreau, Niamielwa et Kouy vers l'intérieur du pays. À cela s'ajoutent les exactions des autorités locales et les leaders communautaires qui fournissent de faux papiers pour collecter des bêtes et exiger de fortes rançons à ces éleveurs pour le retourner comme droit de pâturage. Selon le président de la Fédération nationale des éleveurs centrafricains, seuls le service d'élevage et les autorités municipales sont habilités à prélever ces taxes. Ces éleveurs déclarent avoir subi raquettes des autorités camerounaises durant leur refuge avant de faire paître leurs bœufs sur leur territoire. Ils demandent au gouvernement de trouver des moyens pour leur mettre à l'abri de ces menaces. Biloko, Daniel Mbelimbari, Radio Ndekeluka.
Vous écoutez Radio Ndekeluka. Bientôt la création d'une agence de promotion des investissements et des exportations en Centrafrique.
Une rencontre de 3 jours avec les représentants des institutions nationales pour la validation de l'étude de faisabilité a débuté hier à Bangui. Objectif, renforcer les dispositifs institutionnels d'appui au développement des investissements et des exportations. Une initiative du ministère du Commerce avec l'appui du Centre commercial international. Jean-Vien Gawen, consultant national auprès du Centre commercial international. Au micro de Inès Lorongopo.
Le but de cette activité, c'est de procéder à la validation d'un rapport d'étude portant sur la faisabilité en vue de la création d'une agence centrafricaine de promotion des investissements et des exportations en République centrafricaine. La mise en place de ce dispositif va concourir beaucoup plus à l'amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays et c'est un cadre propice pour nos opérateurs économiques de disposer d'une structure phare au sein desquelles il serait souhaitable d'aider ces opérateurs, de les accompagner et de les informer beaucoup plus sur le processus des investissements en République centrafricaine d'une part et de comment nous pouvons exporter nos produits vers l'étranger. Pour essayer de concrétiser les actions de l'atelier, tous les participants sont constitués beaucoup plus des opérateurs économiques, des acteurs du secteur public, de l'administration qui sont en charge d'appui de ce secteur privé et y compris également nos partenaires techniques et financiers qui devaient apporter beaucoup plus leur modeste contribution en termes soit de financement pour la mise en œuvre de cette institution.
Et puis actualité à Berbère. Les chefs du district sanitaire de la région numéro 2 renforcent leurs capacités.
L'objectif est d'avoir une vision claire et nette sur certaines maladies, notamment la poliomyélite, la fièvre jaune et l'Ebola. De Berbérati, correspondance de René Pierre Ndombi.
L'atelier qui a commencé au début de cette semaine regroupe les 6 chefs de district sanitaire de la région sanitaire numéro 2. Il est question pour ces spécialistes de la santé et chefs de district sanitaire d'avoir une connaissance plus approfondie sur certaines maladies, notamment la poliomyélite, la fièvre jaune et Ebola. À titre d'illustration, l'épidémie de la fièvre jaune a été déclarée à Baboua dans la Nana Mambéré et est sous contrôle du ministère de la Santé et de l'OMS. Pour réussir cette lutte, les présidents de délégations spéciales des districts concernés sont impliqués dans cette formation. Prennent part également à cette formation les membres des équipes cadres des districts et de la région sanitaire numéro 2. La formation, qui est à base communautaire, est organisée par la direction de la santé communautaire avec l'appui de l'UNICEF, selon Dr Serge Didier, docteur, directeur de la région sanitaire numéro 2. René-Pierre Ndoumbé, Berberati, Radio Ndekeruka.
La page sport avec Providence Jutiron. Bonjour Providence.
Bonjour Karine et Selguebe, bonjour à tous.
En football, SCAF Ange de Fatima, dernier match amical cet après-midi à 15h au stade Barthélemy Bouganda.
C'est dans le cadre des préparatifs des préliminaires de la Ligue des clubs champions et de la Coupe de la Confédération africaine. Les représentants de la Ligue de Bangui se préparent pour prendre part à ces compétitions africaines. Cependant, les joueurs du club Les Anges de Fatima se disent confrontés à plusieurs difficultés. Ils s'entraînent dans des conditions difficiles tous les matins au stade de Bouganda et dans les après-midi au lycée de Fatima. Pas de récupération ni de remboursement de frais de transport. Ils ne sont non plus internés à quelques jours de la rencontre contre Motema Pembe à Kinshasa.
Pour soutenir ces clubs de football Providence, les supporters se mobilisent.
Oui Karine, ils ont lancé au début de cette semaine des caisses dans la ville de Bangui pour des collectes de fonds afin d'aider le SCAF et les Anges de Fatima. Alfred Anaïm, un des responsables au micro de Bienvenue Bélou.
Ça ne concerne plus les Anges de Fatima ni les stades centrafricains. Ça nous concerne tous les centrafricains. Ça c'est le problème des centrafricains. Ils vont là-bas pour défendre les couleurs de notre pays. Voilà ce qui nous amène. Ça c'est un problème de tous les centrafricains. Ce n'est plus les Anges de Fatima, ce n'est plus Escave, ce n'est plus Tempête. Ça c'est l'équipe centrafricaine. Tout le monde doit se donner.
Football enfin sur le terrain de Ndresse 2, poursuite de la 19e journée du championnat de la Soulique de Bouéra.
Cet après-midi à 14h, sympathique croise Saint-Sauveur, suivi du match FC Lipia à JRB. Hier, FC Mandaba a battu FC Konami 1-0.
En basketball, poursuite des éliminatoires de la Coupe du 1er décembre au Palais des Sports à Bangui.
Une initiative de la Fédération Centrafricaine de Basketball cet après-midi à partir de 15h. Le premier match oppose Tondema à Zarasclo, suivi de Plateau Bay Africa, enfin New Tech face à Beuil. Hier, ASOPT a eu raison de Red Star 82-44, Astongolo a battu I-Trésor 61-44 et le Djel Jiba BKGS, les Abeilles, victoire des Abeilles 58-54.
Pendant ce temps, Providence, le nouveau club JK BKGS se relève positivement. Ce club qui est créé à peine 5 mois est en train d'attirer l'admiration des observateurs du basketball centrafricain.
Oui, Karine, il a réalisé 3 victoires en 4 rencontres. Jiba BKGS compte une dame dans son staff technique en la personne de l'ancienne fauve Alexandra Kota, ce qui est nouveau dans le basketball centrafricain. Au micro de Juvenal, Enrico Répédé, Cyril Damango, actuel président et aussi joueur de Jiba BKH, s'en explique.
C'est un petit projet que j'ai depuis très bien longtemps et ça a été bien travaillé en amont. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui avec tout ce qu'on est en train de produire comme prestation, ce qu'on est en train de redonner comme dynamisme dans le monde du basket centrafricain. Bien évidemment, ça n'a pas été facile, mais c'est le résultat d'un travail. C'est vrai qu'on est un nouveau club, on a pris des joueurs un peu de partout, on a des jeunes, on a des anciens, qu'on a réussi à mettre ensemble et puis travailler depuis bientôt, je pense que ça fait 4-5 mois qu'on travaille. Le résultat est là. Nous, on est là pour jouer. On va essayer d'aller le plus loin possible. En tout cas, on travaille pour.
Eh bien, voilà tout pour la partie française de cette édition. Merci à vous de l'avoir écouté. Gardez l'écoute pour la version en sango.